affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous vous convenions à une vaste balade littéraire, philosophique, historique, à travers l'histoire et sous un angle spécifique, car nous recevons dans notre studio Dominique Fernandez. Dominique Fernandez, bonjour, vous êtes membre de l'Académie française, écrivain, et vous venez récemment de publier aux éditions Grasset un ouvrage intitulé « Les amants d'Apollon, l'homosexualité dans la culture ». Et à travers cet ouvrage, qui, comme je le disais, est une fresque de la place de l'homosexualité dans la culture et un révélateur de l'état de celle-ci, vous nous emmenez de l'époque antique jusqu'à l'époque contemporaine pour nous dévoiler ce courant longtemps, à certaines époques du moins, souterrain de notre civilisation. Et pour vous interroger sur les rapports et le positionnement de la société à cet égard. La première chose qui frappe en parcourant votre ouvrage, c'est qu'il prend à rebours un cliché assez couru, celui selon lequel la place et la reconnaissance de l'homosexualité comme une des variantes des affinités humaine, tant du point de vue réactionnaire que du point de vue progressiste, aurait été en s'améliorant tout au long de l'histoire. Or, lorsque l'on se penche dans votre ouvrage, on se rend compte qu'en fait, il y a plutôt des va-et-vient, des allers-retours, des périodes fastes, oui. D'autres moins fastes. Et notamment, on est très surpris de voir un chapitre tel que Florence, capitale de la culture gay, Florence de la Renaissance, j'entends.
Il y a eu des allers-retours, mais le côté positif, c'est aujourd'hui, je veux dire.
Très récent, donc.
Cette conversation était impossible il y a 15 ans. Jamais j'aurais pu parler dans un micro de sujet. Donc, ça, c'est déjà... Tout le monde en parle, je veux dire, maintenant. C'est comme ça. Aujourd'hui, en France, parce qu'il y a quand même un énorme progrès. Hein. Ah oui, ça...
Mais très récent.
Bah, écoutez, moi, je... Oui, enfin... quand j'étais étudiant, j'étais un paria. On ne parlait pas, on ne parlait de rien. Même en classe, j'ai fait l'école normale, c'était tabou, on n'en parlait pas. On parlait de Verlaine, de Rimbaud, on parlait de Platon, mais on ne parlait jamais d'homosexualité. Donc, quand même, il y a, en France, hein, je dis bien, parce que c'est pas, il y a quand même un progrès. Mais ceci dit, au cours de l'histoire, en effet, il y a eu des Athènes, il y a eu Florence, et puis des reculs faramineux.
Alors, votre livre s'ouvre d'ailleurs par une charge assez violente, qui a, je crois, été prononcée initialement dans un congrès rassemblant des psychiatres.
Oui, c'est effrayant, les psychiatres. Ils ont été, et Freud lui-même, Freud, soi-disant, a libéralisé, enfin, il a dit que ce n'était pas une tare ni un vice, mais que c'était quand même un handicap, qu'ont été des demeurés, des gens qui étaient arrêtés dans l'évolution. Parce qu'il dit qu'il y avait trois. La sexualité passe par trois étapes, la masturbation, les petits-enfants, puis l'homosexualité adolescente. Mais pour être un homme véritable, il fallait arriver au mariage, à la monogamie reproductrice. Et si on s'arrêtait à une étape intermédiaire, on était comme des ratés de l'existence. C'est quand même pas très encourageant. Quand on disait ça, quand j'avais 20 ans, je me disais zut, moi je suis foutu, quoi.
Oui, ce n'est plus un jugement d'ordre moral qui viendrait de dogmes
situés
dans les cieux, mais c'est quelque chose de scientifique et implacable.
La morale, on peut discuter, mais la science, on dit « Ah, c'est un grand médecin, tout ça ». Et puis alors, les psychiatres, vous savez, très longtemps, plus maintenant, mais ils se proposaient de corriger, de corriger les homosexuels, de les mettre dans le droit chemin. Il y avait des méthodes, même des électrochocs, il y avait des lobotomies, il y avait des conseils stupides. Enfin, ils ont été... Maintenant, ça a changé, je crois. Mais enfin, très longtemps, la psychiatrie disait que c'était une sorte de maladie, dit de handicap, d'arrêt dans le développement de la personnalité. C'est monstrueux, c'est absolument monstrueux.
C'est là où j'en viens. Remontons les siècles,
oui.
Et découvrons comment l'homosexualité était donc vécue avant, d'une part. Commençons par l'Antiquité, finalement. Pourquoi ne pas être chronologique ?
L'Antiquité, alors, c'était quand même une des périodes d'or. En Grèce et à Rome antique, quand même, l'homosexualité faisait partie de... C'était pas exactement l'homosexualité, d'ailleurs, c'est plutôt la pédophilie, d'ailleurs, la pédérastie, puisque tous les jeunes garçons de 12 ans étaient pris en charge par un aîné de 20 ans et étaient initiés, pas seulement à l'amour, mais à la chasse, à la guerre, aux études. Et après, tout le monde se mariait, d'ailleurs, c'était une étape, mais c'était... Il y avait quand même des liens...
Ça faisait partie de la formation de l'homme accompli.
Quoi. Oui, mais le passage par l'homosexualité était jugé nécessaire. Et c'est... Et puis, ça continuait beaucoup. Sophocle a eu un amant toute sa vie. Et puis, la Légion Thébaine, qui était formée de couples d'aimés, et qui étaient... Ils s'aimaient tellement qu'ils sont tous fait tuer plutôt que l'un survivre à l'autre. Et puis, et la Rome, alors...
Rome, c'est moins connu, donc développons un petit peu.
Oui, Martial, Virgile, Coridon, quand même, le fameux Coridon dont Gide a repris l'exemple, c'est une églogue de Virgile. Et puis, ils étaient presque tous homosexuels, les grands écrivains, les grands poètes. C'est des choses à tester.
Alors ça, c'était,
ça faisait partie de la société, quoi. C'était pas...
Alors ça, on le sait.
On le sait pour
la Grèce, surtout.
Oui. Aussi, quand même. Bah, Virgile, quand même, Coridon. Coridon brûlé pour le bel Alexis, c'est un vers célébrissime.
Justement, c'est ce qui fait le charme de votre livre, c'est que c'est aussi une enquête littéraire.
Oui. Ah bah alors, oui, surtout, bien sûr, surtout, oui.
Donc vous allez... rechercher, faire assaut d'une part d'analyse,
oui.
pour voir comment les œuvres, la différence, j'en viens en fait, oui. Dans l'Antiquité, c'est admis,
oui.
C'est même pas avoué, c'est admis, c'est mis en avant, ce n'est pas masqué. Ensuite, ce courant devient souterrain.
Alors attention, dans le haut Moyen-Âge, c'était très libre encore. Il y a un livre de l'historien américain Boswell qui je n'en parle pas parce que je n'en ai parlé dans un livre précédent, mais qui a établi que jusqu'au XIIIe siècle, les évêques avaient des amants, on a des poèmes d'amour, tout ça. C'est à partir du XIIIe siècle, au moment où les États sont formés. Quand l'État se forme, en France, en Angleterre, en Espagne, l'État, c'est quand même l'ordre, ils veulent éliminer tout ce qui dit les dissidents.
Mais c'est là où, voyez, c'est ce que nous disions au début, c'est-à-dire oui. qu'on a l'impression d'une disjonction entre ce qu'on nous présente oui. habituellement comme les étapes du progrès, comme la constitution de l'État moderne, oui. dans l'histoire universelle, c'est présenté comme une étape vers une progression, vers la tolérance, l'État
des
droits.
Ça n'a pas été continu, mais il y a eu des...
Oui, mais les périodes sombres, sombres dans notre imaginaire collectif de l'histoire de l'humanité, ne sont pas toujours les mêmes d'un point de vue homosexuel que ce qu'on croit. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, l'État moderne, c'est un premier pas vers l'État de droit, et on se rend compte que, du point de vue de la tolérance à l'égard des personnes homosexuelles, c'est le contraire.
Oui, il diminue.
Comment expliquer ça ?
Ah oui, non, parce que l'État, c'est un pouvoir, et tout pouvoir n'aime pas les gens qui ne sont pas conformes exactement à ce qu'il faut être. Donc on persécute les Juifs, les Noirs, enfin, à l'époque, il n'y avait pas ça, mais enfin, aujourd'hui, c'est ça, les homos, les Noirs, tout ce qui est différent. Tout ce qui est différent parce que c'est un ferment de désordre. Et l'État veut être...
Unifié.
Veut être unifié. Et alors quand... voilà, donc c'est au XIIIe siècle que les États modernes, au sens moderne, apparaissent. Et là, alors, il y a une répression féroce. On se met à les brûler, même, comme ça.
Alors que dans la période... Je suis désolé, mais ça va tellement en rebours des clichés que nous avons. Dans la période précédente, celle du Haut Moyen-Âge...
Le Haut Moyen-Âge, c'était très libre. En tout cas, l'Église...
Comment cela s'explique-t-il ? C'est-à-dire que ce sont des queues de comètes de l'Antiquité, c'est le fait que les choses ne sont pas structurées...
Parce que c'est la nature humaine, et que s'il n'y a pas de pouvoir répressif, les gens vivent tranquillement. C'est très simple.
C'est-à-dire que il n'y a pas la possibilité d'imposer une norme.
Voilà,
c'est le moyen qui manque.
C'est l'idée de norme qui est effrayante. Quand Hitler déclare que les bruns sont... que seuls les blonds sont l'élite et que les bruns sont... C'est ça la norme. Et ça permet toutes les persécutions. On décide que ceux-ci ont le droit de vivre, pas les autres, vous voyez. Et c'est ça qui est effrayant. C'est la norme. Moi, j'ai horreur de ce mot normal. Qu'est-ce que ça veut dire normal ? La norme est établie par le pouvoir.
Vous reprenez un petit peu les thèmes de Foucault, là.
Oui, mais c'est ça, mais absolument. Ben oui, on déclarait fous les gens, les homos, entre autres, parce que les mendiants, tous ceux qui ont voulu se débarrasser, on les enfermait comme fous, quoi. Et dans son livre sur l'histoire de la folie, c'est ça, et c'est très juste, ce livre.
Après le Haut Moyen-Âge, durant la Renaissance, est-ce que ce sont des...
La Renaissance, il y a une période faste, c'est la Florence surtout, la Florence dont les figures de Proust sont Michel-Ange, Léonard de Vinci. Il y a presque un peintre qui s'appelait Bazzi, a pris comme sobriquet officiel Sodoma, quand même, c'est extraordinaire. Oui, c'est quand même. Et Botticelli.
Enfin, là, ce ne sont pas des supputations.
Non, non. Alors, il y a des poèmes, enfin, Michel-Ange, tout le monde le sait, Léonard de Vinci aussi, on a la liste des garçons qu'ils ont aimés. Et c'était vraiment. L'ordre magnifique aussi, c'était Jules II, le pape aussi. Tout ça, c'était la Renaissance, d'ailleurs. Ils appelaient à l'Antiquité, ils s'en appelaient à l'Antiquité, c'est la Renaissance de l'Antiquité, la redécouverte de la Grèce et des mœurs grecques et romaines. Et puis, alors ça a duré, ça a duré 15-16e siècle. Et après, alors, il y a eu l'ascension de la bourgeoisie, qui était un pouvoir aussi, qui était... La bourgeoisie, c'était l'idéologie reproductrice. Il fallait que les hommes travaillent dans les usines et les femmes fassent des enfants. Et donc, il fallait séparer les activités. Voilà.
C'est-à-dire que dans ce déroulé,
ouais.
Le rôle de la bourgeoisie et de l'analogie entre la reproduction et la production joue un... C'est un défi qui court.
C'est surtout le 19e, ça, hein.
Mais enfin, là, déjà, dans ce que vous venez de dire, voilà, il faut que les hommes produisent, il faut qu'ils se reproduisent.
Oui, mais c'est vraiment... Au 18e, c'est au contraire libre. Hein, on voit Casanova et tout. Enfin, les mœurs, c'était quand même...
Mais Casanova, c'est un personnage qui est lui-même un peu en marge, quand même. C'est-à-dire que c'est une sorte de contrepoint, non ?
Oui, mais il reflète bien l'idée du temps. C'est vraiment à partir du 20e siècle, du 19e siècle, la bourgeoisie capitaliste prend le pouvoir et établit des règles.
Ce qui différencie ces deux sociétés, ouais, finalement, et quel pourrait être l'étalon qui explique des périodes de tolérance? C'est une forme d'hédonisme
C'est la nature humaine.
On peut entre 5. Non, mais la perception, je veux dire. C'est-à-dire que...
Oui, mais voilà, on compte qu'il y a entre 5 et 10% d'homosexuels partout, dans toutes les classes, dans tous les pays, dans toutes les classes de la société, dans tous les milieux. Ces gens-là demandent à vivre. Et alors, ils vivent quand c'est. On les voit à la Renaissance italienne, mais le reste du temps, ils ont obligé de se cacher, de se dissimuler, de se réprimer. C'est ça, l'histoire.
Si je creuse le sujet, si la persécution ne vient pas prioritairement d'un dogme religieux, puisque, comme vous le dites, à certaines époques, même des prélats qui sont dans ce dogme...
Oui, je Après, l'Église était très répressive, comme elle l'est toujours aujourd'hui.
Bien sûr.
Ouais.
Mais c'est qu'il y a un autre élément. Il y a un autre facteur d'explication, une modification de la société, de la perception, qui entre en jeu.
Oui.
Lequel ?
Oui, mais... Le vrai problème, c'est pas l'homosexualité, c'est l'homophobie. Pourquoi, pourquoi les homosexuels sont l'objet de la défiance ou de la persécution sur les étapes? C'est ça, c'est vrai.
Non, mais justement, je veux aller jusqu'aux racines.
C'est eux qui sont malades, ce sont les homophobes qui sont malades, ce n'est pas les homosexuels. Les homosexuels sont des gens comme tout le monde. On aime les femmes, ils aiment les hommes. Et puis après quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Ce ne sont pas des révolutionnaires ni des subversifs. C'est les homophobes qui sont... c'est une forme de racisme, enfin. C'est ça le vrai problème.
Justement, je voudrais aller aux racines du mal qui semblent plus subtiles. C'est-à-dire que, habituellement, on se dit, l'Église est contre, c'est un interdit, donc, pouf, persécution.
Oui, parce que c'est un
peu... Et là, on voit que c'est plus compliqué.
Oui.
Donc, ça veut dire qu'il y a un autre facteur déclenchant.
Il y a plusieurs facteurs.
Passons-les en revue.
C'est l'autre, de toute façon. C'est l'autre fait toujours peur. C'est pour ça qu'il y a l'antisémitisme, qu'il y a le racisme, qu'il y a celui qui n'est pas conforme à la majorité... fait peur. Et c'est pour ça que les homosexuels ne seront jamais vraiment acceptés. Ah, maintenant, en France, le rapport de force est tel que personne n'ose être homophobe, ouvertement. Mais qu'il le soit. Il le soit, mais on n'ose plus. Mais ils ne seront jamais pleinement acceptés. Un retour de bâton est toujours possible. On a vu ça, d'ailleurs, en Russie. C'était complètement libéralisé avec Eltsine, et Poutine a remis des lois, et ça peut venir ici aussi. C'est un gouvernement, je ne sais pas, d'extrême droite, il peut très bien...
Au-delà de... On peut continuer à passer en revue. C'est le premier point.
Ouais.
Voilà, peur, la peur de l'autre, de ce qui est différent.
Moi, je crois que c'est ça, le principal.
Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre?
Bah, il y a toujours la reproduction de la famille, par exemple. Toutes ces polémiques à propos du mariage gay, cette espèce d'idéologie de la famille qui est...
Est-ce que c'est pas une vision utilitariste de la famille ? C'est là où je voulais un peu en venir, en fait. C'est-à-dire que... un couple homosexuel n'étant pas, a priori, fécond. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qu'on lui reproche, de ne
oui,
pas
mais
être
utile. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'en plus, on refuse l'adoption. Alors,
oui, mais bien sûr, ça, c'est une contradiction du discours.
Oui, il y a énormément d'enfants abandonnés. Soit qu'ils sont abandonnés par leurs parents, soit les parents sont morts, ou les guerres, les orphelins, il y a en Roumanie, en Colombie, en partout. Enfin, si. Et les homosexuels, contrairement à ce qu'on... aux clichés, sont d'excellents parents. Moi, j'ai beaucoup d'amis homoparentaux, femmes ou hommes. Ils sont même exemplaires. Ils ont un devoir d'exemplarité. Donc, ils ne font pas eux-mêmes d'enfants, mais peuvent élever des enfants qui sont abandonnés dans des mouroirs, dans les orphelinats. Alors, c'est un argument qui ne tient pas. D'autre part, le monde souffre de surnatalité aujourd'hui. Alors, autrefois, les petits pays pouvaient dire qu'il faut des enfants pour faire des soldats. Mais aujourd'hui, on déborde.
On crève.
Regardez la France, il y a 60 millions de gens. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de travail, il n'y a rien.
Mais ça n'a pas joué un rôle à un moment quand même. C'est une vision utilitariste de l'homme, vous voyez.
Oui.
Alors qu'en contrepoint, l'homosexuel pourrait présenter une autre vision de l'homme et de l'amour. Non
productif.
Oui, voilà. Ah oui. Non soumise à cet impératif-là.
Il y a deux choses très différentes. C'est le désir sexuel et le désir d'avoir des enfants. Ça n'a rien à voir. Un homosexuel homme aime des hommes, mais il a envie d'être père aussi. Il y a beaucoup le sont. Mmh. Et la femme, c'est la même chose. C'est la religion qui a dit que c'est la même chose. C'est vrai qu'il faut faire. Il faut que chaque fois qu'on fait l'amour, c'est pour faire un enfant. C'est absurde, ça. Ça n'a rien à voir. Le désir sexuel, c'est un désir de personne à personne. Et le désir de parental, c'est le désir de transmettre à la postérité, d'élever des enfants. Et ça, il faut bien séparer les deux choses.
C'est pour ça que je me demandais si ce n'était pas aussi une forme de peur de l'hédonisme, du plaisir, d'un certain agrément de la vie.
Mais il y a autant d'hétéros qui sont hédonistes que de...
Bien entendu.
Il y a des boîtes aussi hétéros. Je veux dire, ça, c'est une vision.
Bien
c'est
entendu.
C'est cliché, ça. L'homo qui uniquement un homme de plaisir, qui un esthète, ça, c'est très minoritaire, ça.
Je ne dis pas que c'est justifié, mais est-ce qu'il n'y a pas ça dans le ressort?
Oui, ben ça, c'est des clichés, les clichés. Et qui sont derrière alimentés. Moi, je n'aime pas les boîtes gays, même la gay pride aujourd'hui, c'est contre-productif. Je trouve ça, c'est un mauvais exemple. C'est pas... La plupart des gays que je connais, femmes ou hommes, sont des gens extrêmement sérieux, exactement comme les autres. Enfin, ils sont sans responsabilité. Simplement, ils sont pas conformes au modèle dominant, c'est tout. Comment est-ce comme si on déclarait que tous les roux sont maudits, parce qu'ils sont en effet très minoritaires.
C'est le cas, oui.
Il y a des civilisations, ils étaient persécutés, les roux.
Oui, et puis même les cours de récréation, d'ailleurs.
Oui, d'abord les cours de récréation. Le Rousseau, c'était le cours du diable. Il suffit de décréter comme ça, que mettre une norme, il faut être blond ou brun, mais pas les roux. C'est pareil.
Alors justement, dans les périodes où c'était moins accepté, on voit que le courant, vous l'avez dit, existe toujours.
Ouais.
Il s'exprime bien évidemment dans la culture. Et vous réinterprétez, non, vous donnez une nouvelle interprétation, peut-être conforme à celle des auteurs, d'un certain nombre... d'un certain nombre d'œuvres tout au long de l'histoire.
Voilà. Alors, il y a eu des œuvres. Du temps de la liberté, les œuvres, le thème était traité ouvertement. Dans les Grecs, les Latins, c'est évident. Dans la Renaissance, c'était plutôt plastique. Hein, il n'y a qu'à voir Michel-Ange, les Ignudi, tout ça. Et dans les périodes de répression, de persécution, c'était... crypté, larvé, par allusion. Parce que, et ça, moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est justement de relire des livres, des grands classiques, avec cet œil, qui, je ne prétends pas que ce soit la clé unique, mais c'est une façon de déceler un thème qui était interdit.
Dans les grandes œuvres, de toute façon, il y a toujours plusieurs thèmes, non ?
Voilà. Mais même dans Quichotte, j'ai trouvé un thème possible, un thème homosexuel, qui n'est pas l'unique, hein, ce serait ridicule de dire ça.
Eh bien, allons-y sur Don Quichotte, parce que c'est un des chapitres les plus surprenants.
Don Quichotte, il veut être chevalier, hein, donc il s'arme, et puis quelqu'un lui dit, il n'a aucune femme dans sa vie, il dit, mais tu es un vrai chevalier, il doit avoir une idole féminine. Ah, je dis, tiens, c'est vrai, au fond, il faut que je procure. Alors, je dis, il y a une femme qui s'appelle Dulcinée, mais il ne l'a jamais vue, il la voit très, très peu. Moi, j'ai compté, il la voit 3 fois. Il idéalise. C'est un mythe, c'est un fantasme, ça ne l'intéresse pas du tout. Et il y a plusieurs épisodes qui frôlent, je trouve, l'homosexualité. Je ne dis pas qu'il est homosexuel, Don Quichotte, mais il n'est certainement pas un homme à femme.
Je crois que vous suggérez qu'il soit gynophobe.
Gynophobe, plutôt.
Voilà, il faut donner une définition.
Oui, gynophobe.
Le gynophobe n'étant pas ni forcément homosexuel, ni un misogyne. Voilà.
Mais à l'époque de Cervantes, les homosexuels, je crois qu'on les enterrait en Espagne. On les tuait, enfin, en France, on les brûlait, il y a des pays où on les enterrait, d'autres où... Il y avait le garrot, c'est peut-être le garrot en Espagne. Donc, on ne pouvait absolument pas traiter, même... Il fallait vraiment cacher ce thème, vous voyez.
Et donc là, il était traité de différentes manières, et notamment
par le fait... Il n'est pas traité, justement, il est... Il faut savoir, parce qu'on peut le lire sans se rendre compte du tout.
Alors de quelle façon le voit-on affleurer, au moins?
Affleurer, on le voit surtout à la grande époque de répression, c'est-à-dire chez Balzac, par exemple, Vautrin... Moi, je me rappelle, en classe, on lisait Balzac, jamais on nous parlait de ça. Mais Vautrin, c'est le plus grand personnage homosexuel de toute la littérature mondiale, plus que chez Proust encore.
Alors là, je dois dire que j'ai lu la trilogie de Vautrin, oui. Et je m'en étais pas rendu compte.
Oh, bah écoutez, Vautrin, il drague Rastignac.
J'étais un peu jeune et un peu puceau, donc c'est normal.
Il drague Rastignac ouvertement. C'est jamais sexué, son langage, évidemment. Mais et après, il y a Rubin Pré, dont il fait ça... Vous savez, il rencontre Rubin Pré, il le prend en stop dans sa carrosse, il est déguisé en abbé, il le prend et il le façonne, et le pauvre va se suicider. Mais c'est vraiment... Et tous ses discours, ce sont des discours amoureux, mais cryptés, bien sûr. Et c'est formidable, c'est un personnage extraordinaire. Mais si vous le relisez comme ça, vous découvrez des choses que vous n'avez pas vues d'abord.
Et quel autre? Alors, parce que là, nous allons de surprise en surprise.
Aussi Stendhal, Armance. On a dit toujours qu'Armance, c'est l'histoire d'un puissant.
Oui, Armance, c'est quand même... Enfin...
Non, mais parce que Stendhal a dit que c'était... Je pense que ça prouve bien qu'il y a une lettre à Mérimée où il dit « J'ai voulu faire le portrait d'un impuissant. » Parce que je rappelle qu'il y a Octave de Malivert, le héros. Il aime Armance, il est aimé, mais ça ne va pas. Alors il est bloqué, il n'arrive pas.
Enfin, là, il y a déjà une énigme, quand même.
Oui, il y a une énigme. Le mariage ne peut pas être consommé. Il va se faire tuer en Grèce. Enfin, il meurt en Grèce. Et alors, l'idée dominante, enfin, c'est, l'opinion dominante, c'est que c'était impuissant. Il y a une lettre de Stendhal qui dit « Je voulais peindre un impuissant ». Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas homosexuel. Il peut être impuissant parce qu'il est homosexuel. Il est impuissant avec les femmes.
Avec les femmes.
C'est parce qu'il... Et à l'époque, on pouvait dire impuissant, on pouvait le dire, bon, il n'aurait pas pu dire homosexuel. C'est ça, vous comprenez
que
c'est ça.
Oui, c'est-à-dire que dans un cas, celui de Don Quichotte, en quelque sorte un rêveur un peu gynophobe, oui. Qui supporte difficilement le contact des femmes qui l'approchent, mais il invoque sa Dulcinée.
Oui, mais vous voyez Octave, par exemple, il y a des scènes, il se bagarre avec des jeunes valets, il les empoigne, il les jette à la fenêtre. Ça, c'est un topos homosexuel, ça. On transforme l'amour en haine. Enfin, vous savez, et puis il va mourir en Grèce, comme par hasard, au milieu de marins. C'est quand même, ce sont des signes très clairs que Stendhal nous donne.
Dans cette promenade littéraire, je crois avoir compris que l'un de vos objectifs est aussi de donner des modèles positifs, car le thème de l'homosexualité, bien entendu, était traité tout au long de la littérature mondiale...
Très peu ouvertement.
Mais que ce soit ouvertement ou pas ouvertement, les personnages ne sont pas toujours positifs, ou en tout cas, ils sont marqués du sceau du malheur, de la déchéance...
Vous savez, quand j'étais jeune, parce que j'ai souffert, il n'y avait pas de modèle. Tous les modèles culturels étaient hétéros. Tout, c'est-à-dire les livres, les films, les chansons, les affiches, enfin, encore maintenant, majoritairement. Donc un jeune homo, autrefois, n'avait aucun modèle. Un jeune, pour se construire, a besoin de grands modèles, dans la littérature, dans l'art, dans la politique, dans ce qu'on veut. Alors maintenant, moi j'ai fait ce livre, justement, pour entre autres, pour montrer qu'il y a d'énormes, des œuvres considérables qui parlent d'eux. Avant, il n'y avait personne, vous voyez. Parce qu'on lisait Balzac, je vous dis, en classe, même j'étais en Cagnes, en école normale, on lisait Balzac, on lisait Rimbaud, on lisait Platon, on lisait tout ça. Jamais on savonnait ça, cette question. Donc on a l'impression qu'on était seul comme des espèces de monstres à part. Alors que... toutes ces œuvres sont des miroirs de... Vous voyez.
Gide, quand même, non.
Alors, il y avait Gide, bien sûr. Ben, il y avait Proust, Gide, il y avait les modernes, oui. Genet, mais...
Oui, enfin, Genet, c'est, voilà, c'est un modèle plus... turbulent, mais enfin, qui est encore...
Oui, mais enfin, Genet, c'était lié à la prison, c'est voilà. Un camp particulier. Il n'y avait pas... Il y avait très peu de modèles. Mais Gide, on ne l'étudiait pas en classe. Gide, on le lisait en douce, nous. Vous voyez, mais c'est...
Pas seulement vous, hein.
Quoi ?
Pas seulement vous, ma maman aussi.
Oui, oui, je dirais... Non, mais je veux dire que...
Les étudiants, c'est... oui. C'est...
Moi, vraiment, j'ai souffert d'un manque total de repères. Je ne parle pas des familles, évidemment, les profs, tout ça. C'est... Maintenant, ça a quand même beaucoup changé en France. Maintenant, on parle tranquillement de tout.
À la fin de notre ouvrage, il y a une bibliothèque gay idéale.
Oui,
d'ailleurs, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi le terme gay est préférable à celui d'homosexuel et que vous n'aimez pas. Alors, j'ai compris que c'est à la fois grec et latin. Et que ça,
non, c'est
ça
un mot horrible, mais... qui a été créé par un écrivain hongrois en 1867, je crois. Il voulait un mot scientifique, parce qu'avant, on disait averti... dépravé, enfin des mots horribles qui stigmatisaient.
Ou poétique d'ailleurs. Mais...
Homosexuel, c'est... antiphysique, on disait des choses comme ça. Homosexuel, pour lui, c'était scientifique, c'était un terme de médecin. Mais je trouve ça un mot horrible, on dirait une marque de dentifrice ou de homosexuel. Ou de... D'ailleurs, homo, c'est grec, sexuel, c'est latin, c'est un mot bâtard. Et puis surtout, c'est pas ça le pire, c'est que ça insiste sur le sexe. Et ça alimentait le préjugé que les homos sont obsédés par le sexe. Ils ne sont pas plus obsédés par le sexe que les hétéros, c'est pas vrai. Dans l'imagination commune, l'homosexuel, c'est un type qui drague, qui est dangereux, qui se jette sur tout le monde. C'est complètement idiot, ça. Mais parce que le mot a beaucoup fait. Et moi, j'ai toujours... Si vous dites que Genet, c'est un romancier homosexuel, alors dites que Flaubert est un romancier hétérosexuel. Dites les deux. Vous voyez ? Jamais on dit hétérosexuel.
Enfin, pour moi, il y a surtout des bons et des mauvais romanciers. Hein.
Voilà. Non, mais d'accord, mais...
Mais on
dit toujours, dans la presse aujourd'hui, un film, on dit toujours une chose homosexuelle. On ne dit jamais un film hétérosexuel, jamais. Comme si c'était, ça allait de soi, vous voyez. Et puis, parce que le sexe, ce n'est pas le plus important. L'homosexuel, il a un cœur, un esprit, une âme, enfin, il a tout ce qu'il faut, vous voyez.
Alors, oui, et puis un hétérosexuel peut aimer la trilogie de Vautrin,
voilà,
même si... Voilà.
Oui, bah, et réciproquement, je veux dire. Donc ce mot est très fâcheux. Alors gay, qui est un mot français qui est passé en Amérique, qui est revenu, au moins, je ne dis pas qu'ils sont tous gays.
Vous pouvez nous en faire la généalogie, parce que
Gay, c'est un mot français, hein, gay, et... Il est passé en Amérique, et puis les Américains l'ont pris pour désigner vers les années 80, je crois, puis c'est revenu maintenant. Je ne dis pas qu'ils sont tous gays, mais enfin, c'est quand même plus roboratif, c'est quand même mieux que
c'est plus gay.
Qu'homosexuel, c'est affreux ce mot.
C'est moins taxinomique, quoi, disons.
Oui, c'est affreux. Il n'y a pas le sexe. Vous voyez, c'est ça.
D'accord. J'ai un peu perdu le fil de notre conversation, on est parti.
Non, je me rappelle, moi j'étais en Russie. Vous savez qu'à Russie, il y a des retours d'homophobie terribles. Mes amis russes me disaient, mais vous, les homosexuels, vous êtes obsédés par le sexe. Et ça, c'était à cause du mot, vous voyez, je suis sûr. Si on dit gay, le sexe disparaît, je veux dire. Le sexe devient un élément d'un ensemble, d'une personnalité.
Alors j'y reviens. La bibliothèque gay idéale et non pas homosexuel idéale. C'est vrai, en le prononçant, déjà, on se rend compte que c'est plus sympathique.
Oui, bien sûr.
Parce que par ailleurs, le mot n'est pas très joli. Ça s'appelle sonorité agréable.
Ça s'est répandu, ce mot, mais non, heureusement. Oui, j'ai pris 10 œuvres ou 12 œuvres, je ne sais plus. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais enfin, des choses fondamentales, quoi.
Donc, ça commence par ce dont nous avons déjà parlé, Platon.
Platon, le banquet, c'est fondamental. Virgile, la deuxième églogue, la Coridon, ça, c'est la base.
Shakespeare aussi.
Bah, les sonnets, voilà, un des grands. Mais c'est très crypté, vous savez qu'on discute. Est-ce que ces sonnets s'adressaient à un garçon, à une fille, certainement à un garçon, je crois que les gens sont d'accord, mais c'est extrêmement, vous savez, c'est Shakespeare, mais c'est génial.
C'est-à-dire que des débats sur Shakespeare, il y en a.
Oui, mais enfin, les sonnets...
Son œuvre est tellement polyphonique.
Et puis le rôle est travesti dans son théâtre, enfin.
Herman Melville, Billy Budd.
Ah bah oui, Billy Budd, c'est le beau marin, vous savez, c'est... C'est l'histoire d'un beau marin qui est engagé dans un navire de guerre, et le maître d'armes, Claggart, le hait tout de suite, et le persécute. Ça entraîne des tas de choses. Parce qu'il est beau, et au fond, on comprend que... Parce que
il y a un retour de refoulé, et que ce n'est pas acceptable.
Voilà, il s'aperçoit qu'il est amoureux de ce garçon, et il ne supporte pas, lui, qui se croit viril au sens, entre guillemets, d'être amoureux d'un garçon. Donc il le persécute, vous voyez, c'est le renversement. C'est un roman extraordinaire, Billy Budd.
Thomas Mann, Tonio Kroger.
Ah oui, Tonio Kroger, il y a tout un chapitre où j'en parle. Thomas Mann était homosexuel, ça est dans son journal, on le sait. Et lui, il a déguisé toute sa vie parce qu'il avait une famille, il était grand bourgeois allemand, mais c'était un homosexuel, quoi.
Vous dites que c'est le meilleur roman de l'époque de la clandestinité.
Oui, c'est bien. Mais lui-même, on a publié son journal, il y a des histoires d'une crudité tout à fait.
Alors, ce qui m'interpelle, c'est que c'est bien sûr chronologique. Le dernier,
Gilles, oui.
Isherwood, un homme singulier, Isherwood. 1964.
Oui, Isherwood faisait partie de ces Anglais qui étaient brimés dans leur pays, entre les deux guerres, et qui sont allés vivre à Berlin avant Hitler, évidemment, qui était considéré comme la Mecque de la liberté des mœurs. Isherwood, il y avait Forster, Isherwood, Auden, tous cette brillante génération.
Ça s'arrête en 1964, donc cette bibliothèque idéale.
Et ouais, parce que je ne veux pas parler des vivants, des... Qu'est-ce qu'il y a depuis 1964, c'est pas... Il n'y a pas grand-chose depuis. Enfin, si, il y en a, mais ce n'est pas l'idéal. Là, je prends les grands noms, les choses que tout le monde peut voir. Quoi.
Je vais dire quelque chose d'horrible. Est-ce que la répression...
Ouais.
Dont les homosexuels ont été l'objet, ne les a pas contraints, obligés à l'excellence littéraire.
Ah oui.
Est-ce que ce n'est pas un moteur d'excellence littéraire?
C'est pour ça, moi je suis inquiet de la liberté totale, parce que maintenant on a beaucoup de romans homo et de films homo qui sont.
Au niveau téléfilm, du coup.
Du déballage, l'autofiction à la Hango, on déballe tout ça, ça n'a aucun intérêt. L'avantage, on peut dire, mais enfin. De la répression, c'est que ça forçait au symbole, à l'allusion, à tout ce qui fait l'art. Enfin, c'était quand même payé cher.
Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les pays.
On peut s'imposer ses propres contraintes. C'est pas parce qu'on vit dans un pays libre qu'il faut tout raconter ce qui vous arrive. Chaque écrivain, chaque artiste de se construire un système esthétique qui fait que c'est pas le déballage. Oui.
Il y a un moment où, dans la préface de l'ouvrage, à propos de Foucault, je pense, ou en marge du propos sur Foucault, vous laissez entendre qu'il y aurait aussi un rôle de l'homosexuel difficile à porter, je pense, hein, d'être un contrepoint, celui qui remet en cause aussi les normes, non seulement sexuelles, mais de façon générale, remet en cause l'idée qu'il faut normer.
Le gay, c'est quelqu'un qui est un peu en marge de la société, puisque la société le marginalise, et donc il a un regard sur les valeurs communes, différents, un regard plus critique de toutes les valeurs qui font la société. Il y en a qui sont très conformistes aussi, hein, ça, bien sûr, mais en principe, s'il était fidèle à une sorte d'éthique gay, il serait dans une attitude continuellement critique, revoir les valeurs admises.
Et aujourd'hui, maintenant que la chose est beaucoup plus admise.
Oui, enfin, il y a encore beaucoup à combattre. Hein. Vous savez, c'est pas gagné. Hein.
Oui, mais c'est un combat d'une nature, il me semble, différente. Hein. C'est-à-dire que c'est un combat pour les droits, mais on sent plus cette ampleur, cette volonté, voilà, cette éthique, comme vous disiez, de s'offrir en martyr du combat pour une nouvelle vision des normes. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui?
Non, c'est pas sûr. En France, il n'y a pas de martyr.
Non, mais je veux dire, même dans ce positionnement, hein, c'est-à-dire qu'il y a plus une course, et on le voit, hein, à la conformité, même à certaines... Je suis désolé, parce que du coup, j'ai l'impression de laisser entendre que ce serait mieux qu'ils soient persécutés pour qu'ils soient encore cet aiguillon
qui
fait progresser. Mais il y a une forme d'embourgeoisement.
Non, il y a une partie des gays qui sont embourgeoisés. Le mariage, c'est pas forcément un bourgeoisement. On peut être marié par... Moi, je connais des garçons qui sont mariés par amour, pas du tout, ils sont pas en bourgeoisie du tout, mais d'autres peuvent s'embourgeoiser. C'est une menace pour tout le monde, ça, je veux dire. L'artiste, en général, peut s'embourgeoiser, il est fichu, alors, je trouve. Mais il a quand même... Ça reste une arme, enfin, une pointe dans la société, une pointe enfoncée dans la société, ça devrait rester. Mais il y en a qui sont conformistes, il y en a qui sont nuls, il y en a qui sont idiots aussi. Alors. Mais enfin, vous savez, à Paris, bon, il y a les grandes libertés, mais dès que vous allez en province, les villes, les petites villes, les villages, tout ça, ça reste encore un combat. Donc ça, un combat à mener. Hein.
Et en prospective, alors, ce long cheminement entre l'art, la culture gay, si on fait une prospective à l'avenir, vous le voyez comment, ce compagnonnage? Et c'est difficile comme
moi,
question.
Moi, je suis optimiste pour la France, pour l'Europe occidentale, je suis optimiste. Mais quand je vois que le pape, soi-disant libéral, a refusé l'accréditation de l'ambassadeur de France parce qu'il est homosexuel, c'est M. Stefanini, c'est inouï de penser ça. Ce pape qui passe pour libéral, qui passe pour pouvoir réformer les mœurs, tout ça, qu'est-ce qu'elle peut le faire que l'ambassadeur ait une vie privée? Qu'est-ce qu'il a rapport avec la chose? Il n'empêche qu'il a refusé, ça y est, il est revenu en France. Il y a 4 mois qu'il attendait. Bon, et puis dans le monde entier, comme vous savez, c'est effrayant. On vous pend en Arabie, on vous lapide en Irak, on vous met en prison en Russie. Nous, on a un petit îlot occidental de liberté, mais qui peut être menacé, vous savez, si... Enfin, il y a comme d'énormes conquêtes. Le Pax, le mariage, c'est quand même des normes. C'était impensable il y a 30 ans même, 40 ans, impensable.
Et dans l'art et la littérature.
Ben, la littérature, le problème, je pense, c'est que maintenant que tout est libre, ça ouvre la porte à la médiocrité, forcément. Il y a beaucoup de films gays qui sont nuls, complètement.
En général, il y a d'ailleurs beaucoup de films qui sont nuls.
Oui, oui, mais justement, c'est parce qu'ils sont gays. Mais il y a des très beaux films gays anglais, vous savez, samedi soir, dimanche matin, des films vraiment qui disaient quelque chose. Maintenant, ça ne dit plus rien. Et les romans, c'est un peu la même chose. Et maintenant, c'est devenu une épice commerciale. Souvent, dans tous les films, il y a un gay, un coin. Il y a un peu de drogue, un peu d'homosexualité, un peu de... Alors, ça, c'est du commerce. C'est...
Oui, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Lorsque vous disiez, pourquoi dit-on toujours film homosexuel ou auteur homosexuel? Oui. C'est aussi parce que c'est un argument de vente.
Non, dissuasif, au contraire. Non. Un film gay, c'est 15 000 spectateurs. Ça, c'est... Non, il ne faut surtout pas... Je vois bien quand il y en a un. Il y en avait un très beau l'an dernier qui s'appelait Le Cercle sur un mouvement suisse il y a 50 ans. Il n'y avait que des mecs dans la salle. Ça ne passe pas. Tandis que ce que je veux dire, c'est que dans les films hétéros, disons, je ne sais pas ce mot, il y a un épisode gay parce que ça émoustille un petit peu, vous voyez. Mais ça, c'est pas intéressant, ça.
Oui, ça vaut brevet de branchitude à peu de frais, quoi.
Voilà, c'est pas. Non, alors ça, c'est le problème. Et ça, je crois que les artistes gays aujourd'hui, écrivains, artistes, doivent se remettre en question. Mais comment faire pour maintenir ce côté contestataire? Je ne dis pas révolutionnaire, mais contestataire, un peu subversif, comment faire? Ça, c'est à chacun de créer ses principes. Ça, je crois que c'est très important.
Tout le monde n'est pas Jeunet, tout le monde n'est pas Pasolini.
Non, bien sûr. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Mais enfin, on peut... Oui, Gide n'était pas du tout... enfin, chacun... C'est un vrai problème, je trouve, pour l'écrivain aujourd'hui. Quoi.
Et peut-être pour la littérature. Non
oui, ne pas se laisser aller à la... Ou l'éballage autofictionnel, mais ça, c'est pour les hétéros aussi.
C'est le moins qu'on
voit quand même en go, on parle que d'elle. C'est nul, ces trucs. Elle raconte indéfiniment ses petites histoires, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas raconter ces histoires. L'autofiction, c'est un désastre pour la littérature.
Il faut sublimer.
Mais oui, il faut créer, puis surtout l'imagination. Je veux dire, tout le monde a une histoire à raconter. Alors, tout le monde a eu mal au ventre, tout le monde a... Ce n'est pas intéressant. C'est intéressant, c'est de construire, c'est de composer. C'est ça qui est l'art.
Donc, au stade où nous en sommes,
ouais.
Nous attendons les prochains génies, à la fois hétérosexuels ou gays.
Ah oui, oui, oui. Génie, ne parle pas de génie, parce qu'il y en a très peu, mais des talents.
Oui, mais enfin, disons qu'on attend le prochain Virgile, le prochain Platon, avec beaucoup d'impatience, ouais, quelles que soient les affinités des uns et des autres.
Non, on ne peut pas viser si haut, parce qu'on peut trouver de très bons textes, il y en a quand même.
Bon. Le prochain Herman Melville, alors.
Ah oui, oui. Enfin, lui, c'est un génie aussi. Hein. C'est très, très beau.
Et en attendant, puisque nous ne les voyons pas poindre immédiatement, bien, je propose à nos auditeurs de se réchauffer le cœur en se plongeant dans votre ouvrage auprès des maîtres du temps passé, leur capacité à déjouer les pièges de la persécution, à porter des masques qui renforçaient leur séduction et à ouvrir de nouvelles perspectives sur la nature humaine en général, finalement, parce que c'est peut-être la caractéristique de ses œuvres, c'est que, au-delà de la condition malheureuse qui était la leur, il parle au cœur de chacun.
Oui, absolument.
Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci à vous.
Avant de conclure, je veux quand même donner les références du livre. Amant d'Apollon, l'homosexualité dans la culture, par Dominique Fernandez de l'Académie française. C'est aux éditions Grasset. Merci encore.
Merci.